La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis aujourd'hui avec Max Lafontan, qui est directeur de recherche émérite à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il est aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Sa carrière a été tellement riche et variée qu'il est impossible de la décrire entièrement ici. Je dirais seulement qu'il a fait des études en biologie, en géologie, en physiologie animale, en physiologie des plantes et bien d'autres sujets encore. Il a été enseignant-chercheur à l'université avant de devenir directeur de recherche à l'INSERM. Il a dirigé une unité de recherche particulière de cet institut pendant plus de 20 ans et il a fondé lui-même un institut regroupant plusieurs de ses unités de recherche à l'intérieur de l'INSERM. Il a écrit de nombreux articles, il a eu de nombreuses responsabilités de recherche et d'enseignement. Depuis une quarantaine d'années, il s'est spécialisé dans un sujet qui va, je crois, intéresser de nombreux auditeurs, les cellules adipeuses, c'est-à-dire la graisse, tout simplement, celle qui s'accumule chez des animaux et dans le corps humain et qui vous ennuie bien. Et je crois qu'on va découvrir avec lui que le tissu adipeux a en fait beaucoup d'intérêt. Bonjour Max.
Bonjour.
Et en lisant tes articles, j'ai vu plein de mots savants. Par exemple, les cellules alpha 2 adrénocepteurs ou bêta adrénocepteurs, les cellules alpha 2 agonistes. J'ai vu aussi les mots de catécholamine, de épinéphrine, des mots que je ne connais pas personnellement. Ça me semble bien compliqué. Il y a une chose que je ne savais pas du tout, c'est qu'il existe deux tissus adipeux, en fait, le tissu blanc et le tissu brun. Et je crois que ça a beaucoup d'importance. Est-ce que tu peux commencer en nous expliquant un peu la différence entre ces deux tissus ?
Alors, le tissu adipeux blanc, c'est la graisse banale que nous avons, nous. Et cette graisse banale, sa fonction essentielle, c'est de stocker des lipides ou de les relibérer quand on a besoin, quand on va stimuler les cellules graisseuses. Dans certaines situations que je vais vous détailler, on peut aider à la vidange de ces cellules. Donc le tissu adipeux blanc, c'est du stockage et du déstockage.
C'est-à-dire que le tissu adipeux blanc, c'est le nôtre. Voilà. D'accord. Et l'autre, alors ?
Alors, l'autre, c'est un tissu tout à fait original que l'on trouve dans beaucoup d'espèces animales, parce que c'est un tissu qui a une couleur brune, qui accumule beaucoup moins de lipides que le tissu adipeux blanc, mais qui a une propriété extraordinaire. Il est capable de produire, par des mécanismes biochimiques tout à fait intéressants qui ont été décryptés, de la chaleur. C'est le tissu qui réchauffe. Donc, tous les petits mammifères sont équipés de tissu adipeux brun. Ça leur permet de se réchauffer.
Alors moi, je découvre quelque chose là, parce que je croyais que c'était la même graisse. Moi, je croyais que justement, que si on prenait de la graisse, c'était pour se réchauffer, etc. Mais c'est pas la même. Alors celle des marmottes, c'est pas la nôtre.
Alors, les marmottes ont les deux types de graisse. Hein. Elles ont de la graisse blanche et elles ont de la graisse brune. Mais ne pas oublier, la marmotte que tu évoques, ça, c'est un bel exemple. Parce que la marmotte est un hibernant. Hein. Dans son terrier, elle va baisser sa température de façon spectaculaire. Et le problème, bien sûr, toutes les fonctions physiologiques sont réduites. Les battements de cœur sont très réduits, tout est réduit. Mais magiquement, il y a des moments où elle va se réveiller. Et quand elle se réveille, quel est le responsable de son réchauffement ? Eh bien, c'est le tissu adipeux brun. Ça va permettre à la marmotte de récupérer sa température normale. Et ça, c'est le problème tout à fait intéressant chez les hibernants. Hein, les hibernants, c'est le cas extrême. Mais le rat a du tissu adipeux brun. C'est un tissu qui contribue à son équilibre thermique.
Alors, ce ne sont pas les mêmes types de cellules, c'est ça ?
La différence essentielle, c'est que au sein des cellules responsables de l'énergie, au sein des mitochondries des cellules du tissu adipeux brun, se trouve une protéine tout à fait particulière qui va permettre ce processus de chauffage. En dehors de ça, après, le tissu adipeux brun, comme le tissu adipeux blanc, il est équipé pour réagir aux hormones du stress, les fameuses catécholamines. Vous les connaissez toutes, c'est l'adrénaline et la noradrénaline, les grandes hormones. Alors que ce soit le brun ou le blanc, ils sont capables de réagir et de répondre aux catécholamines. Ça a été mon dada pendant 25 ans.
Justement, je crois que tu as fait des découvertes à ce sujet sur l'importance des hormones, comment fonctionnent les hormones dans les cellules graisseuses.
Bon, les catécholamines, ça a été déjà les lectures de ma jeunesse, de jeune étudiant. Hein, c'était une période où c'était pas la mode le stress. Maintenant, tout le monde parle du stress, tout le monde est stressé, enfin bref. Au moment où j'avais commencé à me poser des questions sur le stress, il y a eu un livre écrit par un Canadien qui était très intéressant. Et ça m'avait excité à ce moment-là. C'était une période où j'étais un physiologiste, c'est-à-dire j'étudiais le fonctionnement de l'organisme dans son entier. Mais c'était une période où on glissait vers la transition d'études des mécanismes d'action. Et je me suis dit, tiens, peut-être ça serait intéressant d'étudier le mécanisme d'action des hormones du stress sur la cellule graisseuse. La cellule graisseuse n'était pas tellement à la mode. Les gens la regardaient pas trop. Le gras n'intéressait pas beaucoup de gens.
Tu me disais que les chirurgiens découpaient la graisse et la mettaient à la poubelle comme si c'était pas du tissu vivant.
Tout à fait. Et j'ai profité, comme tu le dis, d'une opportunité extraordinaire. C'est d'une collaboration avec les chirurgiens plasticiens de l'hôpital de Rangueil qui m'ont dit, mais la graisse, tu en veux? Nous, on en met des kilos à la poubelle. Parce que c'était une période où ils découpaient la graisse, si vous voulez, soit sur la graisse des culottes de cheval, hein. À ce moment-là, vous savez que maintenant, on fait ce qu'on appelle la lipoaspiration. On va aspirer cette graisse. À cette époque-là, non, on faisait une grande balafre et on découpait des boules gras. Et donc, ils m'ont donné des kilos et des kilos de graisse. Et j'ai pu travailler en toute sérénité sur les fameuses cellules de cette graisse. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que cette graisse des culottes de cheval va m'amener sur une découverte essentiel dans le domaine des catécholamines. Je vais découvrir que cette graisse des culottes de cheval avait un récepteur, le fameux alpha-2 adrénocepteur. C'est un récepteur à l'adrénaline qui était extrêmement abondant dans ces cellules. Et quand l'adrénaline agissait sur ces cellules, ça bloquait la vidange de la cellule graisseuse. Donc tout le monde sait pourquoi on ne peut pas vider la graisse de la culotte de cheval, parce qu'elle est verrouillée par ces fameux récepteurs.
Tu me disais aussi que c'est un peu un bienfait, parce que si cette graisse se vidait, on en aurait partout dans le corps, c'est ça?
Alors, normalement, dans la physiologie du tissu adipeux, il faut qu'on puisse prendre des réserves qu'il y a dans la graisse pour faire de l'exercice physique, enfin pour assurer son bilan énergétique. Ça, c'est la vraie vie. Mais ce qui est intéressant, ce qui a été des découvertes parallèles à la culotte de cheval, bien sûr, on a regardé les autres tissus. Et en réalité, on a des différences de réponse des tissus adipeux selon leur localisation anatomique. Autrement dit, l'organisme, il va piocher dans certains domaines, dans certains secteurs. Ça va vider la graisse sous-cutanée, la graisse des mammaires, etc. Elles sont beaucoup plus réactives aux catécholamines. Le système des catécholamines, on va le fouiller très vite et on va découvrir qu'en réalité, il y a trois récepteurs. Le fameux alpha-2 qui bloque, les bêta-1, bêta-2 qui stimulent. Et la réponse à l'hormone dépend de l'équipement relatif à un récepteur qui freine et un récepteur qui stimule. Donc là, c'est une belle affaire, une très belle régulation. Pour un pharmacologue, moi, ça a été le délire. Mais c'est des choses qui ont beaucoup intéressé les gens du business. Vous pouvez comprendre pourquoi.
Oui, je crois que tu es allé voir des entreprises pharmaceutiques pour discuter avec eux de ce qu'on pouvait faire avec tout ça.
Ah oui, là ça a été la tempête totale. Dès notre premier article, donc, sur la découverte de ce fameux récepteur qui freinait la vidange, toutes les sociétés qui avaient l'ambition de faire fondre la graisse nous ont sollicité pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelle est l'application, quelles sont les molécules qu'il faudrait utiliser, etc. Et là, on a été entraînés dans une tourmente énorme. Je crois que j'ai à peu près raconté cette histoire dans une quinzaine de sociétés pharmaceutiques. Et j'ai pu avoir des molécules intéressantes pour continuer nos travaux fondamentaux sur ces récepteurs. Par contre, on n'a pas trouvé de médicaments.
Alors le résultat, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce que...
En l'état actuel des choses, et pour avoir bien sûr beaucoup discuté avec les gens de la cosmétologie, en gros, le produit le plus banal que vous trouvez dans les crèmes amincissantes, c'est la caféine. La caféine, in vitro, elle est capable de provoquer la vidange de la cellule graisseuse. Le problème, bien sûr, quand vous la tartinez sur la cuisse, c'est pas du tout la même chose, et puis il faut qu'elle pénètre, etc. Elle a une efficacité extrêmement discrète. Et alors, bien sûr, les gens avaient songé qu'éventuellement, on pourrait mettre des molécules spécifiques de ce fameux récepteur, et en particulier un antagoniste du récepteur, c'est-à-dire un bloqueur de ce récepteur. Et à ce moment-là, on dit, banco, son rôle néfaste, on va gagner. Problème extraordinaire, c'est que ces molécules chimiques, c'est de la pharmacologie après. Ce n'est plus de la cosmétologie. Ça veut dire que si on veut mettre une molécule chimique dans une crème amaigrissante, ça va coûter une fortune, parce qu'il faut faire tous les tests d'une molécule pharmacologique. Autrement dit, les industriels de la cosmétologie n'ont pas été passionnés. La Sanofi a fait une tentative, mais à mon avis, timide et pas arrivée à grand-chose. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas de solution. Alors que l'histoire, on l'a bien comprise, c'est splendide, ça fait 30 ans et elle n'a jamais été contestée, donc c'est une découverte, parce que c'est bien que les chercheurs, de temps en temps, ils font des découvertes qui sont remises en cause, etc. Et là, on est heureux, elle n'a pas été remise en cause, mais bon, elle n'a pas débouché sur un médicament pertinent.
Mais ces cellules graisseuses, là, pour terminer, elles ont aussi de l'intérêt quelquefois, par exemple pour capturer des polluants organiques, pour empêcher que ça aille ailleurs dans le corps.
Ça, c'est une découverte plus récente et tout à fait intéressante, c'est que tous les xénobiotiques, tout ce qui traîne dans l'air, qui est soluble dans les lipides, va passer dans le corps, on les absorbe, et comme ils sont solubles dans les lipides, ils vont être intégrés dans la graisse. Et alors là, c'est impeccable, parce qu'ils vont être intégrés dans les triglycérides de la graisse, et ils vont être séquestrés. Il est beaucoup plus passionnant de les avoir là, somnolents, dans une graisse qui bouge pas beaucoup, plutôt que de les avoir éventuellement dans le foie. Donc, autrement dit, sacré, si ce n'est que récemment, il y a des gens qui ont dit « Mais attention, si on maigrit trop, on risque de les refaire passer dans la circulation. »
Donc je pense que ce sera le mot de la fin. Il faut avoir une vie saine, il ne faut pas avoir trop de graisse, mais c'est bien d'en avoir un peu quand même. Merci beaucoup Max, et à bientôt.